بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Mes frères, mes mères et sœurs, donc, Inch'Allah, nous allons poursuivre la traduction et explication de quelques versets du Coran Sharif. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala d'accepter, de faciliter et de nous faire profiter au maximum. Comme nous le verrons, Inch'Allah, dans certains de ces versets, la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est le plus grand bienfait qui existe sur cette terre. C'est le plus grand ni'mat qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a offert à cette ummah. Et c'est Inch'Allah, par la baraka des enseignements du Coran Sharif, que nous arriverons à nous sauver, Inch'Allah. Hier, nous avions abordé brièvement le 26e et 27e Sipara aussi, Inch'Allah, un petit peu. Donc aujourd'hui, on va poursuivre. Il y a plusieurs sourates dans ce 27e juz. La sourate Al-Qamar, la lune. Sourate Ar-Rahman, qu'on connaît, qu'on a déjà entendu. Donc on essaiera, Inch'Allah, brièvement de passer à travers quelques-uns de ces versets, en débutant par la première partie, celle qui concerne les croyances et les masaïl, les aqaïd. Et la première des croyances qu'on mentionnera est celle qui a trait au taqdir, au destin. Le destin est un thème particulier et un thème à la fois clair et ambigu. C'est pour ça que les savants, ils le décrivent comme un des secrets parmi les secrets d'Allah. Les sahaba radiallahu anhum, une fois ils ont demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit que Allah Ta'ala a déjà tout décrété. C'est-à-dire, dans la science d'Allah, Allah sait exactement ce qui va se produire. Les compagnons du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ont alors dit qu'il ne sert à rien de faire des actions, puisqu'Allah a déjà tout décrété. Et le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu en ce sens que non, « I'amalu fakullun muyassarun lima khuliqala » ou comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Continuez à faire des actions. Et Allah Ta'ala vous facilitera la voie pour laquelle vous êtes destiné. Alors le destin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la science d'Allah, dans la science d'Allah, dans le ilm d'Allah, dans la connaissance d'Allah, Allah il a connaissance de tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps. Même l'enfant qui vient au monde, qui va venir au monde, dans un hadith sharif rapporté par l'imam Bukhari, rahmatullahi alayhi entre autres, il est dit qu'à un moment, Allah Tabaraka wa Ta'ala envoie un ange. Et cet ange, Allah Ta'ala, donc, lui demande d'écrire quatre choses à propos de l'enfant. Rizquhu, quelle sera sa subsistance? Qu'est-ce qu'il va avoir? Son travail? Sa nourriture? Wa amaluhu, ses actions qu'il va accomplir? Wa ajaluhu, jusqu'à quand cette personne, c'est-à-dire cet enfant, il va rester sur terre? Est-ce qu'il va mourir après 20 ans, après 30 ans? Et également, shaqiyun ou sa'id, c'est-à-dire, ce sera quelqu'un qui sera parmi les gens du paradis ou quelqu'un qui sera parmi les gens de l'enfer. On avait développé, alhamdulillah, grâce à Allah tabarak wa ta'ala, il y a quelques temps de cela, un bayan sur le thème du rizq, c'est-à-dire de la subsistance, qui aujourd'hui nous pose beaucoup de problèmes. Alors, sans aucun doute, là également, il ne faut pas tomber dans un excès qui est de dire, non, Allah Ta'ala a décidé du risque, donc on n'a pas à travailler, on n'a pas à faire d'efforts. Ça, c'est une fausse idée. Mais, comme dans un hadith sharif, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si vous allez placer votre confiance sur Allah comme il se doit, « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير » Allah Ta'ala vous nourrirait comme il nourrit les oiseaux. C'est-à-dire, ils sortent le matin, ils n'ont pas de quoi à manger, et Allah Ta'ala pourvoit à leurs besoins. De la même manière, Allah Ta'ala pourvoit aux besoins de toute la création. Des animaux, des fourmis, des poissons, des oiseaux, des bêtes sauvages, des djinnats et des humains. Mais même dans cet exemple du hadith sharif des oiseaux, qu'est-ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit? Que tardou, c'est-à-dire le matin, il sort de son nid. Donc il fait cet effort. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'effort et il faut s'asseoir tranquillement et parce qu'Allah Ta'ala a décidé. Ça, c'est une fausse idée également. Mais Allah Tabarak wa Ta'ala a déjà donc destiné ce qui nous est promis. Et puisque ça a trait au destin également, ce qui nous est destiné, ce qu'Allah Ta'ala nous a promis, on l'aura sans aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si Allah Ta'ala a prévu que vous aurez un compte en banque rempli de 20 000 ou 2 millions d'euros, alors vous allez l'avoir. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en ce sens qu'aucune âme ne peut quitter cette terre sans avoir fini et rempli son rizq qui lui est destiné. Les mouchtikines de Makkah Mukarrama, pourquoi est-ce qu'ils tuaient leurs enfants? Une des raisons qui est évoquée dans le Coran Sharif, c'est parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Allah Ta'ala dit « Wa la taqtulu awladakum min imlaq, wa la taqtulu awladakum khashyata imlaq » n'ayez pas peur pour la subsistance de vos enfants, pour la pauvreté de vos enfants. « Nahnu narzuquhum wa iyyakum » On va les nourrir et on va vous nourrir également. Et dans un autre verset, nahnu narzuqukum wa iyyahum. On va vous nourrir, on va les nourrir également. Donc Allah Ta'ala, il a pris cette garantie là. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Aucun être, aucun animal, aucune créature sur terre n'existe sans que Allah Ta'ala il a pris cette responsabilité, bien qu'Allah Ta'ala n'est contraint à aucune chose, il n'est pas obligé de faire quoi que ce soit, mais de par sa clémence, il a pris cette responsabilité de nourrir donc toute la création. Alors bien évidemment, quand on a dit, comme on a dit, il faut donc faire cet effort, et Allah Ta'ala il a déjà destiné pour chaque personne combien est-ce qu'on va mériter et combien est-ce qu'on va donc avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder son yaqin, son tawakkul et sa confiance sur Allah tabarak wa ta'ala. Après, il y a un autre aspect qui est que parfois, pas parfois, il y a des actions qui vont augmenter notre risque, qui vont augmenter notre subsistance. Et il y a des actions qui vont être la cause de la diminution de notre subsistance, de notre risque. Les actions qui augmenteront notre risque, par exemple, il est dit de donner la sadaqa. De donner la sadaqa, ça augmentera notre risque. Ou alors de joindre les relations familiales. Dans un hadith sharif, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que « Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah » ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut avoir de la bénédiction dans sa vie. Bénédiction dans sa vie, ça ne veut pas dire qu'il va vivre plus longtemps qu'il est destiné, mais Allah Ta'ala lui permettra, par exemple, de faire dans une vie de 40 ans le travail de 100 ou 150 ans. Allah Ta'ala mettra une telle baraka. Il aura des écrits qui resteront, des personnes qui continueront à perpétuer ses enseignements, des mourides, des élèves, etc. Donc ça, c'est une explication qu'on peut donner. Donc, celui qui veut avoir la baraka dans son risque, qu'il joigne les relations familiales et également qu'il continue à donner la sadaqa. De la même manière, à l'opposé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en ce sens que إِنَّ الْمَرْأَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, qu'un serviteur il est privé de sa subsistance à cause d'un péché qu'il commet. Le prophète, dans un hadith sharif, dans les paroles en ce sens, on nous dit comme ça que parfois Allah il a déjà destiné une grande quantité de risques pour le serviteur, pour l'être humain, mais à cause de ses péchés, donc ça empêche ce risque d'atteindre cette personne-là. Et ce qui nous est destiné, Inch'Allah, il nous arrivera. Concernant le taqdir également, la mort c'est quelque chose qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a prédestiné. Allah ta'ala, il sait quand ça va arriver, comment ça va arriver également. Et notre devoir, nous, c'est de faire dua par rapport à cela. Dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'aucune chose ne peut repousser le taqdir, ne peut repousser le destin, si ce n'est le dua. Ça veut dire quoi? Qu'en faisant dua, Allah tabarak wa ta'ala, il va, incha'Allah, enlever et éloigner des difficultés qui étaient prévues pour nous. Certains savants, ils nous disent qu'il y a plusieurs types de taqdir. Il y a un taqdir qu'on appelle le taqdir mubram, c'est-à-dire Allah ta'ala l'a conditionné à certaines actions. Et il y a un taqdir mu'allaq, pardon, et un taqdir mubram. Le taqdir mu'allaq, c'est celui dans lequel Allah ta'ala il a conditionné certains résultats, certaines finalités à certaines actions. Et le taqdir mubram, c'est celui qui est éternel, qui est azali, qui ne bouge pas, qui ne change pas. Alors ce taqdir est mu'allaq, qui est conditionné en deux mots, inshallah, ça veut dire quoi? Qu'Allah Ta'ala il va dire, si mon serviteur il va donner la sadaqa, alors tel accident ne l'arrivera pas. Mais dans le taqdir est mubram, qui est déjà auprès d'Allah Tabarak wa Ta'ala destiné, ça Allah Ta'ala il a déjà écrit si le serviteur il va faire cette sadaqa ou bien il ne va pas faire cette sadaqa. Donc ça c'est une explication par rapport au taqdir. De la même manière, un de nos amis en Afrique du Sud nous racontait cette histoire d'un musulman qui habitait dans un endroit très dangereux où il y avait beaucoup de violence et beaucoup de meurtres, et il était donc tracassé par rapport à cela. Mais alhamdoulilah, il était installé et rien ne lui était arrivé. Et il a décidé, ça c'est un tadbir, ce n'est pas interdit, au contraire, il a décidé de faire quoi? De déménager et d'aller dans un endroit un peu plus calme. Et le jour où il a déménagé, ce même jour, Allah Ta'ala a fait qu'il a trouvé la mort. Donc on voit ici que nous, on fait nos plans. Mais la décision d'Allah Tabarak wa Ta'ala, rien ne peut surpasser et ne peut dominer la décision d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Parfois, on met tous les moyens en œuvre pour aller au Hajj. Mais au dernier moment, on a une contrainte qui apparaît. Parfois, on met tous les moyens en œuvre pour acheter un magasin, acheter un terrain, trouver un travail. Et tout est réuni, mais au dernier moment, la décision d'Allah Tabarak wa Ta'ala, elle domine. Dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en ce sens que parfois il y a des gens, il y a des gens qui toute leur vie, ils commettent des péchés, ils sont dans l'infidélité. Mais juste avant de mourir, Allah Ta'ala tourne leur cœur et ils deviennent musulmans, ils entrent dans le paradis. À l'opposé, il y a des gens qui toute leur vie, ils obéissent à Allah Tabarak wa Ta'ala, et avant de quitter cette terre, Allah nous protège, mais il perd la foi. Ça, c'est également le taqdir d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Alors, pour bien, on va dire, clarifier un petit peu, puisqu'on est dessus, grâce à Allah Tabarak wa Ta'ala, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire d'action et que l'être humain, il est majbour, c'est-à-dire, il est complètement impuissant. Non. L'être humain, il n'est pas impuissant, il a cette force de décider et de choisir. Et le taqdir, ça veut dire quoi? Ça correspond à la science d'Allah, au ilm d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Mufti Rada ou al-Haq Sab, Damat Barakatuhum, notre professeur, Allah nous fasse profiter encore plus et lui donne une longue vie, Inch'Allah. Il dit, regardez l'exemple du taqdir et de la science d'Allah. C'est comme si face à vous, vous êtres humains, vous avez une corde devant vous. Et sur cette corde, il y a une partie de la corde qui est de couleur rouge. Maintenant, une autre partie de la corde qui est de couleur bleue et une autre partie de la corde qui est de couleur blanche. Et sur cette corde, vous avez une fourmi qui est en train d'avancer. Donc vous, en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que cette fourmi, elle est en train d'avancer. Et le fait que vous voyez cette fourmi passer de la partie qui est rouge, ensuite, vous allez savoir, vous allez avoir la connaissance que la fourmi va aller sur la partie qui est bleue. Et ensuite, vous allez avoir la connaissance, vous allez dire, elle va maintenant venir sur la partie qui est blanche. Ça ne veut pas dire, avoir cette connaissance ne veut pas dire contrôler et dominer la fourmi. Cela ne veut pas dire que la fourmi dépend de vous. Donc de la même manière, la science, le ilm d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est complet, il est total. Allah sait exactement ce qui va se passer. Mais l'être humain, il a un choix. Et pourquoi est-ce qu'on précise ça? Parce qu'il y a également un groupe qui réfute la croyance du taqdir, qui disent que non, l'être humain, il est majbour, c'est-à-dire il n'a aucun ikhtiyar, il n'a aucun choix, il ne peut rien faire. Donc ça, ce n'est pas notre croyance. Allah Ta'ala nous a donné les moyens de décider. Oui, si nous n'allons pas obéir à Allah Tabarak wa Ta'ala, alors parfois Allah Tabarak wa Ta'ala, il ferme les cœurs. Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa shahwa, Allah il nous protège. Donc voilà le taqdir, le destin, c'est une croyance. Et dans ce verset du Coran Sharif, dans la sourate Al-Qamar, Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit « Inna kulla shayin khalaqnahu biqadar » Chaque chose, nous avons créé chaque chose avec mesure. Mesure peut avoir le sens de la grandeur, c'est-à-dire une chose qui soit petite ou grande. La fourmi, Allah Ta'ala a décidé qu'elle soit de cette taille. Même les doigts de la main, Mufti Shafi Israël, rahmatullahi, dit regardez, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Allah Ta'ala, il a décidé que chacun de nos membres, il doit être de cette taille. Donc avec mesure, les arbres auront cette taille, les oiseaux auront cette taille, les mers, les océans, les poissons, tous les animaux, Allah Ta'ala, il a créé avec mesure. Ça, c'est un des signes de la puissance et de l'existence d'Allah.
Ou alors, biqadar, ici, on va prendre le sens de qadar dans le sens de taqdir, comme on vient, alhamdoulilah, d'expliquer, c'est-à-dire du destin. Donc, le musulman, il croit au destin. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmi l'akhir wa al-qadri khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala wa al-ba'fi ba'da mawt wa al-qadr. Le destin, le bien et le mal, ça provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième chose par rapport aux croyances, c'est le début de la surah al-qamar, c'est-à-dire la surah la lune. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit ici iqtarabati sa'atu wa anshaqqa al-qamar, qui veut dire en ce sens que l'heure, c'est-à-dire le jour du qiyama, l'heure, le jour du qiyama est en train de s'approcher, wa anshaqqa al-qamar, et la lune s'est fendue. Cela fait référence à un incident qui s'est produit du temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les non-musulmans de Makkah Mukarrama, ils demandaient au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une preuve donc qui allait montrer que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est véritablement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait qu'à une occasion la lune s'est fendue en deux. Alors un côté, donc il s'est séparé, la lune s'est fendue donc en deux. Et les non-musulmans, les koufars de Makkah Mukarrama, ils ont vu ça. Mais même s'ils ont vu ça, ils n'ont pas cru. Ils se sont dit, on va attendre de voir les gens qui sont en voyage et qui ne sont pas à Makkah. Lorsqu'ils vont revenir, on va leur demander s'ils ont pu voir cela ou pas. Al-Mufti Shafi Sahib Rahmatullahi Alayh, il nous dit également que dans l'Inde, dans l'histoire, un kitab qui montre l'histoire de l'Inde, qui s'appelle Tarikh-e-Farishta. Si on va traduire, ça donne l'histoire des anges. Également, on trouve mention de cet incident donc qui est mentionné dans ce kitab-là. Alors, par rapport à ce récit-là, Allah Ta'ala le dit dans le Coran Sharif. Certains mufassirin, alayhim rahma, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que c'est un ta'wil, c'est-à-dire ça va arriver lorsque le jour du Qiyama, il va arriver. Donc ça va se produire à ce moment-là. Mais comme on a vu, c'est un récit qui est prouvé par les hadiths et Mubaraka. C'est un récit que Imam Tahawi et Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ils disent que les ahadiths sont mutawatir, c'est-à-dire il y a un nombre tellement grand qu'on ne peut pas réfuter cela. Il y a l'histoire d'un professeur qui s'appelle David Pate Cook. Il est actuellement le président du parti islamique anglais. Alors lui, il dit à un moment, j'ai commencé à être attiré par l'islam, et lorsque j'ai ouvert le Coran Sharif, j'ai lu et je suis tombé sur ce passage, iqtarabati sa'atu wa anshaqqa al-qamar, que l'heure, le jour du qiyama est en train d'arriver et la lune, elle s'est fendue. Mais lorsque j'ai lu ça, je me suis dit ce n'est pas possible. Et donc j'ai refermé le Coran Sharif, je dis non, ce livre, wa la ya'zu billah, c'est quelque chose de faux. Ce n'est pas possible que la lune s'est fendue donc en deux. On dit qu'il aimait donc étudier les religions, il avait un ami musulman, etc., etc. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé un jour sur un reportage. Et dans ce reportage, il y avait donc un présentateur et il y avait donc des scientifiques également. Et là, ce commentateur, qu'est-ce qu'il disait? Il était en train de reprocher aux scientifiques d'avoir dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour aller à la découverte de l'espace, à tel point qu'ils disent que, un chiffre qui est donné, une estimation, la somme de 100 milliards de dollars. Et donc le présentateur, il n'était pas content, il dit c'est pas possible, il y a des gens qui meurent de faim, etc., etc. Donc on pourrait utiliser cet argent à d'autres buts, à d'autres fins. Et là finalement, les scientifiques, ils les ont répondu que non, on est parti donc sur la Lune et là on a fait une découverte. Et quelle découverte est-ce qu'ils ont fait? Un jour, cette Lune s'est scindée en deux parties, puis s'est ressoudée. Le commentateur lui demanda, comment est-ce que vous avez découvert cela? Et ils répondirent qu'ils avaient découvert des modifications au niveau de la surface des roches lunaires qui s'étendaient par endroits jusqu'au noyau. Nous avons alors consulté plusieurs scientifiques et géologues qui ont conclu qu'un tel phénomène ne peut être expliqué que par la fission de la Lune en deux parties. Lorsque j'entendis cela, c'est-à-dire cette personne qui avait lu le Coran Sharif et qui a dit que ce n'était pas possible, il dit « Je bondis de ma chaise en m'écriant « Incroyable !» Allah a forcé les Américains, enfin, à dépenser plus de 100 milliards de dollars pour prouver aux musulmans un miracle qui a eu lieu il y a 1400 ans par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion ne peut que détenir la vérité. » Il dit ensuite, alhamdoulilah, il est devenu musulman et il est aujourd'hui le président du parti islamique anglais. Donc on a donné son nom tout à l'heure. Bref, tout ça pour dire quoi ? Même si vous allez faire des recherches, Inch'Allah, on vous montre également des photos sur Internet où il y a justement cette fissure de la lune. Wallahu alam, que ce soit une réalité ou que ce ne soit pas, les gens qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu de leurs propres yeux, mais ils n'ont pas accepté. Ça veut dire quoi? Que la foi, le iman, ça c'est un tawfiq de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux qui veulent croire, alhamdulillah, avec les preuves bien évidemment, alors bien évidemment, inshallah, ils seront gagnants. Allah ta'ala, il fasse que la ummat, inshallah, entre là-dedans. Donc, cette mu'jiza-là, ce miracle-là, qu'on appelle la fente de la lune, qui s'est donc séparée en deux parties à l'époque du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, dans un des versets de la surah Ar-Rahman, on va le débuter brièvement, inshallah. Allah tabaraka wa ta'ala, il commence et il nous dit Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayh, il nous dit que une des raisons pour lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé cette qualité là Ar-Rahman, le tout clément, c'est parce que les différents bienfaits qui vont être mentionnés dans cette sourate, à 21 reprises, la phrase fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, elle revient à 21 reprises. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala, il mentionne un bienfait et il nous dit « Lequel des bienfaits d'Allah reniez-vous, rejetez-vous » Et Allah Ta'ala, il s'adresse plus particulièrement aux êtres humains et aux djinnat. Et c'est pour ça qu'on dit en ce sens, Imam Qurtubi, rahmatullahi alayhi, il a mentionné qu'une fois le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un incident qu'on appelle la nuit des djinns. On a mentionné ça hier, je crois. Laylatul djinn, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré donc les djinnat. Et dans cette nuit-là, Imam Qurtubi rahmatullah alayhi dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donc récité cette sourate aux djinnat. Et lorsqu'il avait fini, les djinnat, qu'est-ce qu'ils ont répondu à chaque fois? Ils disaient Amantu billah la bi shay'in min ni'matika rabbana nukadhib. Vous voyez dans le Coran Sharif en général, c'est inscrit sur le côté, il y a une petite étoile ici et cette phrase elle est inscrite là sur le côté. Amantu billah, je crois en Allah. Et il n'y a aucune chose parmi tes bienfaits, ô Allah, que nous rejetons. Et le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a récité cette sourate également devant les sahaba, radiallahu anhum, mais qui n'ont pas répondu, ils n'ont rien dit. Donc le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les djinnat, sur cet instant-là, ils ont été meilleurs que vous, parce qu'à chaque fois, qu'Allah ta'ala, il nous disait donc, « Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban » Lequel des bienfaits d'Allah tabarak wa ta'ala est-ce que vous êtes en train de renier? Les djinnats, ils ont dit non, on ne renie aucun bienfait d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc Allah ta'ala, il mentionne plusieurs bienfaits qui sont liés à l'être humain, qui sont liés à la création, qui sont liés au jannat, qui sont liés au jour du qiyamah pour nous prévenir. Et donc brièvement, quelques versets, inshallah, on va essayer de voir. Donc Allah ta'ala, il débute Ar-Rahman. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, pour dire quoi? Que les bienfaits qu'Allah ta'ala nous a octroyés, Allah Ta'ala nous a octroyé non pas parce qu'il le devait, wal'ayazu billah, rien n'est obligé par Allah Ta'ala, mais uniquement à cause de la clémence d'Allah. Et le premier des bienfaits qu'Allah Ta'ala il mentionne, c'est quoi? 'Allama al-Qur'an. Allah, il a créé l'homme et il lui a enseigné le Qur'an Sharif. Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi, il nous dit que si vous regardez la séquence des phrases, après ça, qu'est-ce qu'il y a? Khalaqa al-insan, la création de l'être humain. Même la création de l'être humain, c'est un ni'mat, c'est un bienfait de la part d'Allah. Et si vous regardez en termes de séquence, normalement, khalaqa al-insan, c'est-à-dire la création de l'être humain vient avant, et ensuite, lorsque l'être humain il est créé, là, il va pouvoir apprendre le Coran. Mais malgré tout, Allah Ta'ala, il a placé l'enseignement du Coran avant, parce que le but de la création de l'être humain, c'est d'apprendre le Coran. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans un autre verset du Coran et Pâques, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Le but de la création des êtres humains et des djinnat, c'est qu'ils adorent Allah Tabarak wa Ta'ala. Donc Allah dit, il a enseigné le Coran. Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayh, il nous dit, et c'est extrêmement dommage pour moi-même et pour nous tous, qu'on ne profite pas de ça. Nous avons la possibilité d'avoir les commentaires du Coran Sharif, d'avoir les programmes de tafsir, d'avoir les traductions du Coran Sharif, mais malgré tout, on ne profite pas de ce ni'mat d'Allah qui est donc le Coran Sharif. Ça, c'est le plus grand bienfait. Pourquoi? Parce que ça va nous amener à la hidayat, ça va nous amener à la guider et ça va nous amener, inshallah, au paradis. Donc, Allah al-Qur'an, le plus grand bienfait, Allah il a enseigné. Mais Allah il a enseigné le Qur'an à qui? Le complément d'objet, ça c'est un petit peu plus dans la langue arabe, le nahwa, le complément d'objet, il n'est pas mentionné. Donc, Allah ta'ala, il a enseigné le Qur'an à qui? Bien évidemment, en premier lieu, au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la règle concernant, on va dire, la grammaire arabe, c'est si le complément d'objet n'est pas mentionné, c'est-à-dire ici, le complément d'objet indirect ici, à qui Allah Ta'ala il a enseigné. Ça veut dire qu'Allah il a enseigné à toute l'humanité, à toute la création. Et subhanallah, on y viendra inshallah dans un instant, allama al-Qur'an khalaq al-insan allamahu al-bayan. Pour profiter de ce Qur'an sharif-là, on a besoin d'un autre ni'mat. Et ce ni'mat, c'est quoi? Ce bienfait, c'est quoi? Allamahu al-bayan. Allah tabarak wa ta'ala, il a appris à l'être humain à s'exprimer. C'est-à-dire, si nous, on n'était pas en train de parler là, ben vous n'auriez pas pu écouter. Vous n'aurez pas pu lire le Qur'an sharif et exprimer bayan. Mufti Shafi sahib, rahmatullahi alayh, il nous dit que ça veut dire à travers la parole, ça veut dire à travers les écrits, à travers tous les moyens qu'on peut imaginer, et donc qui prouve quoi? Qui prouve que le Coran, qui prouve que ça c'est un bienfait, et pas un bienfait par lequel on va pouvoir profiter du Coran Sharif. Et Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayhi dit le bayan, cette explication à travers la langue, à travers la parole, à travers les langues. Et juste pour avoir un petit aperçu, aujourd'hui, dans combien de langues le Coran Sharif il est traduit? Alors ils nous disent que dans les langues européennes, il y a la langue espagnole, albanaise, anglaise, bosnienne, française, macédonienne et grecque. Dans les langues asiatiques, 16 langues ils mentionnent, l'ourdou, l'indonésie, le birma, le tamoul, le thaïlandais, le turc, le chinois, le perse, le coréen et d'autres également. Et en 7 langues africaines, araméen, Zoulou, Somali, Yoruba, enfin bref, il y a plusieurs langues qui sont mentionnées, le portugais, l'hébreu et l'indien, ça c'est en étude également d'après ces informations qu'on a trouvées. Tout cela pour mentionner quoi? Que Allah il nous dit que le plus grand bienfait qu'il nous a donné c'est quoi? C'est le Coran Sharif, de pratiquer ce Coran Sharif pour avoir la hidayat, pour arriver au paradis. Et la création de l'être humain, le but de la création de l'être humain c'est ça. C'est d'apprendre et de pratiquer ce Coran. Et pour arriver à cela, Allah Ta'ala nous a donné quoi? Allamahul bayan. Allah nous a enseigné la parole. Donc la parole, ça aussi, c'est également un des grands bienfaits de la part d'Allah Ta'ala. Ensuite, Allah Ta'ala, il poursuit, il nous parle également du phénomène que, inshallah, vous avez déjà entendu parler et qu'on appelle la rencontre des deux mers. Alors le verset qui se réfère à ça, c'est quoi? Marajal bahraini yaltaqiyan baynahuma barzakhul la yadriyan. Allah Ta'ala nous dit que il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, et il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Alors on a également une image ici, vous pourrez voir inshallah. Nous également, lors de notre dernier voyage en Afrique du Sud à Cape Town, il y a un endroit qu'on appelle Cape Point, c'est-à-dire vous allez et ils disent, Wallahu alam, Allah Ta'ala il sait mieux, c'est là, à cet endroit où l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, si je me trompe, ils se rejoignent. Et d'après les découvertes qui ont été faites, Inch'Allah, dans l'image, vous pourrez voir, je ne sais pas ce qui, bon, Inch'Allah, vous verrez après, on voit bien la ligne qui est entre les deux. Et il y a une différence entre, on va dire, la densité, entre la salinité, entre le volume de ces deux mers. Hazrat Allama Shabir Usmani rahimahullah ta'ala, dans son tafsir Usmani, dans le verset de la sourate Al-Furqan, où Allah Ta'ala il nous parle de ces deux mers, la rencontre de ces deux mers, elles se rencontrent mais elles ne se mélangent pas. Il nous explique qu'il y a des étudiants du Bangladesh qui disent également que dans leur pays, ils ont trouvé un événement similaire également. Et ils donnent également d'autres endroits. Il dit qu'au Gujarat, là où il était à Dabel également, lorsqu'il y a donc une forte poussée d'eau également, donc on peut retrouver ce phénomène-là. Wallahu alam. En tout cas, Allah tabaraka wa ta'ala le mentionne dans le Coran Sharif. Vous pourrez venir voir, inshallah, la photo après, avec les différentes études donc, qui ont été faites par les océanologues, etc. Donc Allah Ta'ala, il nous parle de ça également. Ensuite, Allah Ta'ala, il poursuit, et il y a un verset qu'on va classer un peu dans la catégorie des péchés. C'est quoi? C'est qu'Allah Ta'ala, il nous dit à un moment, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ, qu'en ce jour, ni homme ni djinn, on ne posera des questions à propos de leur péché. Alors vous savez que si on va lire juste ce verset-là, ni homme ni djinn, on ne posera des questions à propos de leur péché. Alors que de l'autre côté, on nous dit qu'il y aura le compte. Allah Ta'ala va nous demander qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez dépensé votre argent, comment est-ce que vous avez eu, comment vous avez utilisé votre corps. Donc, en apparence, comment est-ce qu'on va comprendre ça pour pas qu'il y ait de contradiction? Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il nous dit que c'est pas qu'on va pas leur demander si vous avez fait ça ou pas fait ça. Parce que ça, c'est déjà connu par Allah, les anges, ils ont déjà inscrit, c'est dans votre livre de compte. Mais on va. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ibn Mujahid, rahmatullahi alayh, lui nous raconte que quoi? Que les gens qui auront commis des péchés, Allah me préserve, nous préserve, ils auront sur leur visage un signe particulier. Et il dit que cette scène, elle apparaîtra après le compte, c'est-à-dire après qu'Allah Ta'ala il ait fait la décision que telle personne va aller dans le paradis, Allah il me fait, il nous fait tous, Inch'Allah, parmi ces gens-là, mais telle personne va aller dans l'enfer. Après cela, cette scène va apparaître. Et ces gens justement qui auront commis des péchés, puisqu'il y aura des signes sur leur visage, les anges ne leur demanderont pas, ils seront tirés, ils seront amenés, et donc jusqu'à l'enfer. Donc voilà comment est-ce qu'on peut comprendre donc ce verset du Coran Sharif. Ensuite, dernièrement, pour terminer brièvement, Inch'Allah, la petite partie tazkiya, c'est-à-dire quelques qualités. Allah Tabarak wa Ta'ala, il parle de Hazrat Ibrahim alayhi salat wa salam. Wa Ibrahim alladhi waffa. C'est-à-dire, Allah il a donné le titre à Ibrahim alayhi salat wa salam, qu'il a rempli sa promesse. Alors, on était passé là-dessus brièvement dans le 21e sipara. Pourquoi est-ce que Hazrat Ibrahim alayhi salat wa salam, il a eu ce titre? On avait dit là-bas, dans la sourate Ar-Rawm, c'est parce qu'il lisait matin et soir les versets suivants: fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun. Dans une tradition on trouve ça, parce qu'il lisait ce verset là de la sourate Ar-Rawm, alors c'est pour ça qu'Allah Ta'ala lui a donné ce titre. Et une autre tradition que Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi il mentionne, c'est quoi? C'est parce que il faisait 4 rakats au début du jour. Avant, après le lever du soleil, le matin, il faisait 4 rakat. Et dans un hadith Qudsi, c'est-à-dire rapporté par Allah Tabarak wa Ta'ala, il est dit en ce sens: ô fils d'Adam, accomplis 4 rakat au début du jour, je prendrai soin de toi jusqu'à la fin de la journée. Donc il est dit que c'est par rapport à ça que Hazrat Ibrahim alayhi salat wa salam, il a eu ce titre-là. Et pour terminer, dans cette surah Ar-Rahman, Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous parle du paradis. Et il nous dit: wa liman khafa maqama rabbihi jannatan, et celui qui aura peur de comparaître devant Allah, c'est-à-dire il va penser, et Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi dit que c'est une des méditations qu'on peut faire, que je vais devoir me présenter devant Allah, je vais me présenter devant Allah tabarak wa ta'ala, celui qui aura cette crainte là, lui va avoir deux paradis. Alors ici Allah ta'ala il parle de deux paradis, deux jannat. Mufti Shafi Sahib rahmatullah dit que c'est comme les rois d'avant, ils avaient leur palais à eux et ils avaient un autre palais pour tous leurs serviteurs, les gens qui étaient donc à leur service. Ça c'est un paradis. Et ensuite Allah tabarak wa ta'ala dans cette même surah, il dit: wa min dunihima jannatan, en dehors de ces deux paradis là il y aura deux autres paradis. Alors les deux premiers paradis, ils sont réservés aux muqarrabin, c'est-à-dire aux gens qui sont extrêmement proches d'Allah tabarak wa ta'ala, Allah il nous fait inshallah sans mériter parmi ces gens là et les deux autres c'est pour ashabul yamin, c'est-à-dire les gens de droite, comme dans la surah Waqia, ça viendra inshallah, eux aussi ils vont avoir ces bienfaits là. Donc brièvement quelques versets, Allah ta'ala qu'est-ce qu'il nous dit? Zawata afnan, que dans ces paradis là il y aura des arbres qui seront extrêmement touffus, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'ombre, on pourra se reposer. Fihima aynan tajriyan, il y aura des sources qui seront courantes. Fihima min kulli fakihatin zawjan, il y aura de chaque fruit, il y aura de deux espèces. Les Mufassirin alayhimur rahman nous disent que les fruits de ce dunya également, on pourra retrouver les mêmes noms, mais il y aura la similarité ne portera que sur le nom. Ça veut dire le goût et le plaisir qu'on prendra à goûter ces fruits-là, ça sera beaucoup beaucoup plus fort que celui dans ce monde-là. Après, Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit également que pour cueillir ces fruits également, ça sera extrêmement facile. Même si on est allongé, on va pouvoir cueillir ces fruits. Si on est debout, si on est en train de marcher, de manière extrêmement facile, on va pouvoir cueillir ces fruits. Allah ta'ala, il nous dit dans le paradis: muttaki'ina ala furushim bata'inuha min istabraq wa janal jannatayn dan, que ces gens ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart. Et les fruits des deux jardins seront apportés. Voilà, wajanal jannatayn dan, extrêmement facilement on va pouvoir ça. Il y aura également les femmes du paradis: lam yatmithunna insun qablahum wala jan, aucun être humain n'aura touché ces femmes, elles seront totalement vierges, et aucun jinnat également. Alors Mufti Shafi Sahib rahmatullah, il nous dit que ça peut vouloir dire d'une part que les hur, les femmes du paradis qui seront réservées aux êtres humains, aucun humain n'aura touché ces hurs-là. Et les hurs qui seront réservées aux djinnats mu'minin, aux djinnats croyants, aucun djinnat n'aura touché ces femmes-là avant ça. Ou alors ça peut vouloir dire le sens plus général, que ces femmes, ces hurs du paradis, aucun être humain ni aucun djinn ne peut être touché également par ça. Parce que vous savez également, Allah il protège, mais parfois les femmes de ce monde, elles peuvent être entre guillemets attaquées par les djinnats également. Ka'annahunna al-yaqutu wal-marjan, Allah Ta'ala il décrit ces hurs et il dit que leur exemple, c'est quoi? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Et ensuite, Allah Ta'ala, il dit que cette récompense, « Hal jaza'ul ihsan illa l'ihsan », c'est pourquoi y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Vous avez fait le bien, Allah Ta'ala va vous récompenser en bien. Ensuite, Allah Ta'ala il parle de ces deux autres paradis, wa min dunihima jannatan, dans lesquels également on trouve des jardins, on trouve des rivières également qui seront moins conséquentes que les premières. On trouve également des fruits, Allah Ta'ala nous parle ici, il contient des fruits, des palmiers et des grenadiers, wa rumman, donc le grenadier qui sera également dans le paradis. Allah il parle des femmes du paradis, etc. Donc Allah Tabarak wa Ta'ala il nous facilite inshallah l'entrée au paradis, il nous donne le yaqin complet, la conviction sur ces paroles d'Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous pardonne, il nous fasse travailler pour acquérir inshallah ces bienfaits avec un afiyat, rahat, taqwa, inshallah. Alhamdulillah.